France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Olivier Bellamy, bien connu pour ses émissions et chroniques musicales, mais aussi pour ses livres comme le Dictionnaire amoureux du piano. Il publie aujourd'hui La Folie Pastrée, une évocation de la comtesse Lily Pastrée qui accueillait pendant la guerre à Marseille tous les artistes pourchassés. Musicien juif et autre paria, elle fut aussi la véritable fondatrice du Festival d'Aix-en-Provence. Lily Pastrée par Olivier Bellamy dans quelques minutes, le temps de saluer nos amis portugais après leur match nul mercredi face à la France. Une occasion d'écouter ce refrain qui les concerne.
Je sens ce matin d'humeur douce et charmante. J'ai passé, mes amis, une nuit excellente. Aussi je vous le dis, aussi je vous le dis, mes bons et chers amis. Je suis hilar.
Il est hilar.
Hilar, hilar.
Hilar, hilar.
Extrêmement hilar.
Extrêmement hilar.
Et ça n'a rien de rare.
Et ça n'a rien de rare.
Car, 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 les Portugais.
Les Portugais,
chacun le sait,
chacun le sait.
Les Portugais sont toujours gays, qu'ils fassent beau, qu'ils fassent laid, au mois de décembre de mai. Les Portugais sont toujours gays.
Les Portugais sont toujours gays, qu'ils fassent beau, qu'ils fassent laid, au mois de décembre de mai. Les Portugais sont gays.
Je fus embrumé du cerveau par un courant d'air détestable. Quelqu'un a cassé mon carreau. Eh bien, pourtant je suis aimable. Je suis aimable. Je suis aimable. Les Portugais sont toujours gays. Qu'ils fassent beau, qu'ils fassent laid. Au mois de décembre ou de mai, les Portugais sont toujours gays.
Les Portugais sont toujours gays. Qu'ils fassent beau, qu'ils fassent laid. Au mois de décembre ou de mai.
Par ma femme, très carrément, je fus fait ce qu'on ne doit pas dire. Et bien, quand j'appris l'accident, mes bons amis, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Les Portugais sont toujours gays, qu'ils fassent beau, qu'ils fassent laid, au mois de décembre de mai. Les Portugais sont toujours gays.
Les Portugais sont toujours gays, qu'ils fassent beau, qu'ils fassent laid.
Voilà, bon, la rime est un peu facile, mais en tout cas, ce chœur a connu une grande popularité à la fin du 19e siècle. Il est extrait d'une opérette, Le jour et la nuit de Charles Lecoq. Et les Portugais, d'ailleurs, vous avez été nombreux à m'en parler cette semaine, après la diffusion samedi dernier des Lavandières du Portugal. Vous savez, cette chanson que mon invité Jean-François Kahn trouvait quand même un peu débile, au moins dans ses paroles, et il nous a expliqué pourquoi. Et bien, beaucoup d'auditeurs ont protesté et ils m'ont dit mais non, pas du tout, Les Lavandières du Portugal, c'est une chanson féministe avant l'heure, il faut bien écouter les paroles. Alors je vous suggère de la réentendre par l'excellente Jacqueline François, vous vous ferez ainsi une opinion. Et puis si les Portugais sont gays, ils sont aussi parfois très tristes, parce que le fado, c'est pas forcément la musique la plus joyeuse du monde, mais c'est tellement beau quand c'est chanté par Amália Rodrigues.
Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Pode podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero, se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar.
Mas paredes confesso, excusez la prononciation. Enfin, ça veut dire je ne me confie même pas au mur. Et c'était la grande Amalia Rodriguez.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et j'ai la joie ce matin d'accueillir un journaliste musical parmi les plus aimés de tous les mélomanes, mais c'est aussi un écrivain, auteur de nombreux livres, en particulier sur la musique et sur des sujets plus vastes aussi, comme celui qu'il traite aujourd'hui, l'histoire de la comtesse Lili Pastré qui accueillit à Marseille pendant la guerre de nombreux artistes réfugiés. Son livre s'intitule La Folie Pastré, il vient de paraître chez Grasset. J'ai le plaisir d'accueillir donc Olivier Bellamy.
Le ciel est plein de joie, la nuit est parfumée, à quel parfum subtil. Odeur de feu de bois, douce odeur de fumée, odeur du mois d'avril. On sent que bientôt c'est la fête, la jolie fête du printemps, qui fleurit par-dessus les têtes, le ciel d'avril. Comme les champs, une étoile m'a dit, deux étoiles m'ont dit, connais-tu le pays du rêve, le pays d'amour, oh, sous le ciel bleu, tout est joyeux. Et vos jours sont courts, oh, pays d'amour, et les nuits sont brèves. Mais on vit sa vie loin de tout ceci, viens cette nuit. Ah, c'est du mystère que tu veux, en voilà. Pars, oublie la terre, pars, viens avec nous, tu verras. Les joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, la route enchantée. Rivière, mon ami, c'est pour toi que je chante, et vous, petits oiseaux, écoutez-moi. Cochons, vaches et veaux, et vous, bêtes méchantes, qui hurlez dans les bois. Demain, c'est le jour où l'on s'aime, et qui s'aime récolte l'amour. L'amour, c'est le plus beau poème. Pourquoi ne pas s'aimer toujours? Une étoile m'a dit, deux étoiles m'ont dit, chante l'amour au clair de lune. Chante sans un sou, chante comme un fou, partout, partout. La jeunesse est là qui te tend les bras, le soleil c'est ta fortune. Si tu vis ta vie loin de tout souci, viens cette nuit. Parle, c'est du mystère que tu veux, en voilà. Parle, oublie la terre. Parle, viens avec nous, tu verras les joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, la route enchantée, bonjour, le jour, la vie, la nuit, l'amour.
Charles Trenet, en 1959, dans le film La route enchantée. Bonjour Olivier Bellamy.
Bonjour Benoît Duterte.
Vous aimez beaucoup cette chanson. Hein,
j'adore tout ce qu'a écrit Trenet. Dès que j'entends Trenet, c'est comme pour Mozart. Pour moi, c'est le Mozart de la chanson française. Ce mélange de légèreté et de profondeur qui est absolument unique. Et je me sens tout de suite en joie pour toute la journée.
Même quand on était petit et qu'il était un peu passé de mode dans les années 60-70.
Alors moi, je le connaissais pas à ce moment-là parce que c'était ma période Sheila.
Ah oui, on va y revenir d'ailleurs.
Et Léo Ferré d'ailleurs, j'avais...
Ah oui, le grand écart.
Sheila et Léo Ferré. Ça me rappelle cette phrase de Jacques Brel qui disait, et je trouve ça génial que Brel ait pu dire ça, il dit, sans lui, donc Trenet, nous serions tous des experts comptables. Je trouve ça absolument génial, c'est-à-dire qu'il a donné la liberté à tout le monde.
C'est vrai, c'est vrai. Alors merci d'avoir suggéré cette chanson pour commencer, d'autant plus que dans cette chanson, Charles Trenet parle du ciel étoilé, il parle d'un pays de rêve, et ça m'a tout de suite fait penser à ce pays que vous décrivez dans votre livre La Folie Pastrée, qui est un pays qui se trouve juste en bordure de Marseille, près des Calanques. Ça fait même partie, je crois, de la ville de Marseille.
Ça s'appelle
la campagne pastrée. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas marseillais, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est que cette campagne pastrée?
Est-ce que vous voyez, quand vous êtes à la plage des Catalans, hein, vous avez le Vieux-Port, vous avez le Fort Saint-Nicolas, vous avez la plage des Catalans, et vous avez la Corniche. Vous allez vers la Corniche, vous allez donc vers le sud, et vous arrivez à un moment donné, un petit port de pêche qui s'appelle Montredon, qui fait partie de Marseille. Alors, généralement, c'est très embouteillé, c'est très compliqué. Comme toujours à Marseille, c'est jamais avec tambours et trompettes, il faut chercher un peu et découvrir. Et non. Là, il y a une campagne pastrée, c'est-à-dire un parc où, eh bien, c'est la belle-mère de Lili Pastrée, la mère de son mari, Votre Solidité, qui a acquis parcelle par parcelle.
Voilà, donc c'est un mélange de nature, de belles maisons qui ont été plantées par cette famille, etc. Voilà. Et tout ça donne pratiquement sur les calanques de l'autre côté.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas très très loin de la mer. Et alors, niché dans ce parc magnifique, il y a la Villa Provençale, qui est l'endroit à l'abri des regards indiscrets où Lili Pastrée recevait ses amis. Et là,
pendant la guerre notamment, donc on va en parler, tous ceux qui étaient réfugiés à Marseille venaient chez elle faire de la musique dans ce décor enchanté, on peut dire. Ils étaient reçus d'une façon chaleureuse, amicale, par cette femme extraordinaire.
Voilà.
Alors on va parler d'elle, évidemment, aujourd'hui, puisque vous lui consacrez un livre, La Folie Pastrée, Olivier Bellamy, mais on va aussi un petit peu parler de vous quand même. Et donc, par exemple, en remontant jusque à vos fameuses années Sheila.
Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Vraiment
Et voilà donc le genre de choses qu'un de nos plus éminents critiques musicaux classiques, spécialistes de Brahms et de Schubert, écoutait quand il était petit.
Mais c'est très bien fait. Je connais toutes ces chansons par cœur.
Enfin, tout, vrai, pas,
les nouvelles moins, quoiqu'elles soient très bien, je trouve. Mais toutes celles-là, et alors ça a commencé, je crois, je devais avoir 3-4 ans. Enfin, c'est ma mère, moi je m'en souviens plus
ça,
trop.
Ça, c'était en 66, donc vous étiez tout jeune.
Voilà, j'avais 5 ans.
Voilà.
Et c'est ma mère qui m'a raconté que dans les rues de Marseille, boulevard Bompard, où nous allons voir ma grand-mère, eh bien, je chantais ling, 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 mais à tue-tête. Et après, quand nous avons déménagé vers la Loupe, là, je me souviens très bien que j'aimais tellement chez là que je voulais que le monde entier l'aime. Et je mettais le haut-parleur du pick-up sur la fenêtre, sur la fenêtre, pour que tout le monde entende ça.
Comme les gens qui passent dans leur voiture ou leur, oui. Avec la main à son
oui, mais enfin, c'est quand même mieux que le vroom-vroom, hein, excusez-moi. Hein. Non, parce que c'est quand même très, très bien fait. C'est un peu le Charles Trenet du pauvre ou le Charles Trenet des concierges. Parce que, et moi, je me sens très, très concierge quand j'entends chez là.
En tout cas, on l'a compris, Olivier Bellamy, bien avant de vous intéressé à la comtesse Pastret, et vous êtes un Marseillais, hein, vous avez grandi, oui, vous avez passé vos premières années dans cette ville, ça vous a marqué profondément ?
Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'avec l'âge...
oui, on redécouvre davantage.
Voilà, c'est ça. Et on se sent attiré, vous savez, c'est le fameux Ulysse qui rentre à Ithaque, et ben, disons que Marseille est mon Ithaque.
Et donc, Olivier Bellamy, même si vous avez grandi à Marseille, au moins vos premières années, en fait, c'est à Angers que vous avez fait vos débuts de journaliste, ouais. Quelques années plus tard. Vous aviez déménagé.
Moi, j'ai adoré Angers. Et j'ai l'impression que même si j'étais très bien à Paris, puisque là, je suis sur le départ, je suis en plein déménagement, donc si vous me trouvez un peu étrange ou un peu abstrait, c'est parce que je suis sous le coup d'un très, très grand stress. Je pense que Marseille et Angers sont les deux villes qui m'ont le plus marqué.
Ah oui, oui. Angers, où vous avez commencé, il faut dire, hein, à la radio. Mais
oui,
c'était
vrai.
Une radio, le temps du début des radios libres et des radios locales.
Hein. Radio Oxygène, ouais. Avec une amie qui s'appelle Françoise. Nous étions secrètement amoureux. Enfin oui, c'est ça, on peut dire ça. Enfin, c'est une sorte d'amitié amoureuse. Et ouais. Plutôt que de fumer des joints ou de passer notre temps aux terrasses des cafés, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une émission de radio. C'était justement en 81, donc on a fait une émission de musique classique.
Ah, c'était déjà la musique classique.
Voilà, c'était le dimanche soir et ça s'appelait Allegro.
Ouais.
Et alors elle dit que moi je parlais tout le temps et qu'elle était là que pour dire l'heure. Bon, en fait,
c'est pas très galant, mais vous n'êtes pas rendu compte. Voilà. Donc Radio Libre, première aventure journalistique, mais déjà marquée par la musique classique,
ouais, ouais.
Qui était votre passion, une de vos passions.
Ah oui, parce que je suis passé de, ouais. Comme je vous l'ai dit, de Sheila et Léo Ferré. Abraham, Schubert et Mozart très rapidement. Hein.
Et vous avez donc par la suite alors commencé à travailler dans la presse écrite, également d'ailleurs dans ce qu'on appelle la PQR, hein, quotidienne régionale.
Ça fait drôle, PQR.
République du Centre-Ouest et
Ouest-France.
Oui,
c'est vrai. Et j'ai appris mon métier là. Hein. Et voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien y revenir parce que c'est une véritable école. Je trouve que c'est très difficile. Alors évidemment, on dit toujours oui, c'est les chiens écrasés ou ils se sont dit oui, etc. C'est vrai que ça justifie souvent l'achat du titre, mais il y a aussi de formidables articles et c'est très difficile d'intéresser tout le monde avec des choses quotidiennes sans éclat particulier.
Donc c'était une très bonne école, mais malgré tout, vous n'avez pas pu résister comme nous tous hein, à l'appel de Paris, monter à Paris. Voilà,
oui.
Y a un moment où on monte à Paris.
Mais moi, j'ai l'impression, franchement, je dis ça parce que je pourrais dire ça pour me monter du col, j'ai l'impression que j'avais pas véritablement d'ambition. J'étais très bien où j'étais, mais c'est les autres qui n'arrêtaient pas de me dire « Ah, oh, tu devrais tirer les sonnettes, je me rappelle de cette expression, tu devrais aller à Paris, tirer les sonnettes. Ah, vraiment, tirer les sonnettes. Moi, je faisais ça quand j'avais 5 ans et on se sauvait quand on était gosse. On appuyait sur les sonnettes et on se sauvait. Ah, ça, espèce de petit saligo, petit sacripant, etc. Mais tirer les sonnettes pour un boulot, moi, ça ne me venait pas l'idée.
Voilà. Vous avez quand même tiré les sonnettes du quotidien de Paris et du monde de la musique.
J'ai tiré la sonnette de Philippe Tesson qui m'a dit, viens. Et voilà. Et ça m'a
comme
suffi.
Comme ça. Merveilleux, Philippe Tesson.
Oui. Bon, j'étais gratuit la première année parce que je faisais un stage plus ou moins, etc.
Dans ces musiques?
Un petit peu tout. Théâtre un petit peu avec Armel Héliot et puis cinéma. Enfin, j'étais un petit peu le voilà. Corvéable à Merci. moi, ce qui m'allait très bien. Hein.
Voilà. Et puis le monde de la musique où nous avons débuté à peu près à la même époque.
Avec Nathalie Kraft.
Voilà. Même avant.
Moi, avant. Oui, c'est vrai. J'ai connu ça du temps de François Pigeot.
Exactement. Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça que la musique classique est passée vraiment au cœur de votre activité. Et on va écouter tout de suite un de ces compositeurs que vous chérissez particulièrement par des interprètes qui auraient peut-être pu se trouver chez Lili Pastré. Ce sont les valses de Brahms avec toute la bande de Nadia Boulanger. Liederwalzer de Brahms, alors dans un enregistrement historique français très important, puisque on y retrouve Nadia Boulanger et Dinu Lipati au piano, c'était en 1937, avec pour les voix la comtesse Jean de Polignac, Irène Kedroff, Hugues Queneau et Doda Conrad. Lui, au moins, d'ailleurs, je crois, Olivier Bellamy, qui a fréquenté Lili Pastré, votre héroïne,
Doda Conrad. Oui, puisqu'il est venu sur la fin. D'ailleurs, il le raconte dans ma chronique du XXe siècle. Ouais. Quand on pense qu'à cette époque-là, les Français n'aimaient pas Brahms.
C'est en 1937, là. Hein.
Oui, voilà. Oui. Donc, c'est quand même assez formidable de la part de Nadia Boulanger et Dinu Lipati qui s'entendaient très bien. Ouais. Parce que je crois que l'une des dernières lettres que Dinu Lipati a écrites, c'est pour Nadia. Ils étaient très, très liés, très proches. Et c'est d'un charme.
C'est un charme. Moi, j'adore ce Brahms populaire en demi-teinte, comme ça, qui est un des aspects de Brahms auquel vous avez consacré, je dis, un très, très joli livre. Hein. C'est peut-être le compositeur de votre cœur avec Schubert, vraiment. Mais on dirait aussi Mozart, aussi Chopin, non?
Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, je les aime tous, mais eux un peu plus que les autres, quand même. Enfin, je sais que vous êtes plus musique française.
Ah, bah oui, je suis très musique française. Mais j'aime bien Brahms quand il est chanté par des grands chanteurs français en 1937. Et pas seulement. Olivier Bellamy, vous avez depuis quelques années, j'écris beaucoup de livres, effectivement. Il y a eu Brahms, il y a eu Schubert, il y a eu des livres sur des grands interprètes, comme Martha Argerich, une très belle biographie, mais aussi des chanteuses que j'adore, qui sont venues dans l'émission, comme Felicity Lott ou Teresa Berganza. Vous avez écrit un dictionnaire amoureux du piano. C'est votre passion aujourd'hui d'écrire des livres sur la musique?
Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. Écrire sur la musique, c'est comme danser l'architecture. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est très très difficile. Et en même temps, c'est absolument passionnant. Écrire, évidemment, c'est intéressant. Et puis, après, on corrige chaque mot. Et là, polir, trouver exactement le mot juste. Pourquoi ce temps-là, ce verbe-là, pourquoi cet adjectif-là et pas un autre. C'est un exercice passionnant et qui vous fait oublier toutes les misères du monde et les embêtements de l'existence. Vrai.
Et puis, il faut le dire aussi, Olivier Bellamy, les auditeurs le savent, vous avez animé pendant de longues années une émission très populaire, Passion Classique, une émission d'entretien.
Bon, c'est fini. Pourquoi vous en parlez pas?
Malheureusement arrêté.
Pour moi, ça continue. C'est comme les profs à la retraite, ils continuent à aller.
Mais vous avez, on l'a remarqué quand on écoutait cette émission, vous avez une empathie naturelle avec vos invités. Je sais pas, l'art de la conversation, ça se travaille. On pourrait me retourner la question, parce que c'est un peu notre métier à la radio, mais c'était quoi votre truc pour arriver comme ça à vous rapprocher si intimement de vos invités?
Je sais pas, ça, moi ça me paraît normal. Ça, c'était à l'époque, je crois, enfin c'était à peu près cette époque-là, où c'était la mode d'insulter ses invités.
Ah oui, c'est vrai, oui.
ou de faire son malin.
De persifler, oui.
Voilà, c'est ça. Voilà. D'être le persifleur ou de ne surtout pas admirer, parce que c'est tellement convenu. Alors évidemment, certains ont beaucoup aimé, parce que peut-être que ça a changé, mais d'autres m'ont traité de cireur de bottes, etc. Alors, ça peut faire un peu lourd à vie, comme on dit dans le midi, mais moi je trouve ça tout intéressant. Tout mérite une attention et les choses ont le prix qu'on leur donne. Et bien, quand vous avez quelqu'un en face de vous, la moindre des choses, c'est de vous intéresser à ce qu'il est. Et si vous faites l'effort de vous intéresser à qui il est, eh bien, tout le monde est intéressant, en fait. Et tout le monde vaut le coup. Et moi, il y avait une chose qui me faisait vraiment plaisir, c'est quand les gens disaient « Ah, oh, celui-là, je le trouvais idiot, je le trouvais bête, je l'aimais pas. Eh ben, je l'ai écouté chez toi, je le trouve formidable. »
Ah, oui,
ça, pour moi, c'était le meilleur compliment.
Alors, j'ai cherché une chanson, un morceau d'opérette ou autre pour illustrer l'art de la conversation. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, pour ce qui est des interviews de radio un peu ratées avec des musiciens, il y a des documents assez amusants, comme par exemple cette petite extrait d'une émission il y a longtemps sur France Inter de notre ami François Morel.
Aujourd'hui, je reçois Frédéric Lodéon. Frédéric Lodéon, il est chef d'orchestre, musicien et violoncelliste, je crois. Puis il fait surtout des émissions à la radio, parce que c'est pareil, il faut qu'il gagne sa vie. Alors, son émission s'appelle Carrefour de l'Odéon. Rapport qui s'appelle l'Odéon. Par exemple, ça s'appellerait La Bastille. Si c'était appelé La Bastille, ça s'appellerait Place de la Bastille. Ou alors, s'il s'appellerait Foch, par exemple, ça s'appellerait Avenue Foch, son émission. Il aime la blague, il est joueur, Frédéric Lodéon, vous êtes quand même un grand musicien, puisque vous avez été l'élève de Rostropovitch et en plus vous faites de la radio, alors vous êtes aussi un homme de communication. On peut dire que vous avez deux casquettes?
C'est deux casquettes et plus, parce que au fond, moi, mon but dans la vie quand j'étais petit, c'était d'être garde-pêche au départ. Ensuite, j'aurais voulu être écrivain et puis je vais vous dire que c'est la vie qui a fait que je suis devenu musicien. Mon père est musicien. Alors, quand vous êtes petit dans une famille comme ça, on vous met au conservatoire. J'ai appris le violoncelle. Mais en fait, moi, j'aime pas être un spécialiste de quoi que ce soit. C'est pas tellement
vie. Il y a quand même eu un virage en direction de la communication. Je pense à l'émission de télévision que vous avez faite, Music Maestro, et aujourd'hui la radio.
Et c'était notre ami Frédéric Lodéon, bien sûr, dans une émission de François Morel.
Ça, qui s'appelait... C'est tordant.
C'est mieux que rien, c'est vraiment très drôle, je vous assure. Olivier Bellamy, il y a des interviews de Jacques Laurent, de Pascal Bruckner et d'autres encore irrésistibles.
Qu'est-ce qu'a fait aussi les...
Il y avait Raphaël Mézrahi également.
Raphaël Mézrahi.
C'est un peu plus connu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis alors, moi je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Desproges avait fait une interview télévisée
de François Sagan. Bien sûr.
Et elle...
Le modèle du genre.
Oh, et elle, tellement gentille, qu'essayait de l'aider. Oh, c'était extraordinaire. C'était quand même une époque où il y avait quand même beaucoup de tendresse.
Je vous signale d'ailleurs que la semaine prochaine, j'aurai ici Chantal Goya. Et justement, elle aussi, elle faisait partie de ceux qui essayaient d'aider le pauvre Raphaël Mézrahi à pas rater complètement son interview. Elle est tellement gentille avec lui que son
Et qu'est-ce qu'elle s'en est pris, la pauvre? Qu'est-ce qu'elle s'est pris, elle?
Alors, Olivier Bellamy, vous êtes ici aujourd'hui, en tout cas, pour nous parler de votre nouveau livre qui sort chez Grasset, La folie pastrée. Et je voudrais peut-être maintenant qu'on revienne un peu plus au sujet et que vous nous racontiez un peu qu'est-ce que c'est que ces deux familles d'abord qui vont faire alliance. Celle des Pastrées, le nom du mari de Lily Pastrées, et puis celle de sa propre famille qui s'appelle les Doubles Saint-Lambert.
Il y a d'un côté Lily Pastrées, c'est la famille double de Saint-Lambert, et elle est l'héritière de Noilly-Prat. Noilly-Prat, comme
l'alcool,
on dit,
l'alcool, l'apéritif.
Voilà, le vermouth, le très célèbre vermouth, qui est même la Rolls du genre. Et donc, immense fortune de son côté à elle, et elle a fait un très beau mariage avec Pastrées. Alors Pastrées, c'était une famille de bergers qui sont venus à Marseille. Il faut savoir que Marseille, au moment du canal de Suez, au milieu du 19e siècle, est devenue immensément riche.
Oui, ce que vous expliquez dans votre livre.
Voilà, et c'est absolument fascinant. D'ailleurs, tous les plus beaux bâtiments datent de cette époque-là. Alors maintenant, Marseille est une ville assez pauvre, enfin riche dans le cœur de ses habitants, riche de sa diversité et riche de son passé et de son site extraordinaire. Mais elle a été très riche à ce moment où les Pastrées, donc justement, ont fait ce commerce avec l'Égypte, avec la Tunisie, par les mers.
Donc Lily, héritière de Noilly-Prat, hein, oui. cet apéritif marseillais qui a précédé le Martini, vous nous l'expliquez
dans le livre.
Hein.
Oui.
Elle épouse donc le comte Pastrées, qui lui n'a qu'un goût dans la vie, c'est le polo.
Le polo.
Mais elle n'a qu'une passion, c'est la musique. Voilà. Et elle va faire de sa maison à Marseille une maison de musiciens.
Voilà.
Et ça commence déjà avant la guerre.
Alors, c'est extraordinaire parce que c'est une grande marseillaise, hein, c'est vraiment une très très grande famille. Et c'est aussi une Parisienne, parce qu'elle va connaître absolument tout le monde.
Tous les musiciens du groupe des Six, les Poulenc, les Millot,
les peintres, etc. Et puis tous les plus grands musiciens, la princesse Polignac, enfin, tout ce monde extraordinaire. Chaque fois qu'on parle de cette époque-là, on se dit, mais c'est pas possible, on a l'impression qu'il y a 20 pays dans une ville.
Mais elle fait venir tout ce petit monde à Marseille.
À la Villa Provençale. Pas forcément tout, parce que comme dit Edmond de Charleroux, elle est pas snob, Lily. Elle fait venir du grand monde comme du quart de monde, selon son expression. C'est-à-dire que elle fait venir des gens qui sont un peu drogués ou des homosexuels. Alors, à cette époque-là, c'était pas non plus de paria. Il y en avait qui avaient leurs entrées dans tous les plus grands salons. Mais en tout cas, c'est pas ce que les gens font, c'est si ça passe ou si ça passe pas. Enfin, voilà. Les gens qu'elle aime, qu'ils soient célèbres ou moins célèbres, elle les fait venir. Et tout ce monde se retrouve et joue à des jeux de surréalistes. Ils font un peu n'importe quoi. Mais la seule chose qui est importante, c'est qu'au moment des concerts, il y a pratiquement un concert par jour, voire plus, où ce qui lui permet à elle de mécéner des musiciens, notamment des musiciens juifs, eh bien... Là, il faut se taire et il faut surtout ne pas faire l'andouille.
Alors, elle a peut-être une prédilection, la comtesse Pastrées, pour Mozart, qui est le musicien de sa vie.
Oui, elle a une tendresse pour Mozart, mais elle est très amie aussi avec Darius Milhaud.
Bien sûr.
Hein, elle est très amie avec beaucoup de compositeurs du groupe des Six.
Mais Mozart, on va l'entendre maintenant par une artiste qui, elle aussi, a été une habituée de la maison Pastrées, c'est la grande Clara Askill, qui fait partie donc de ces musiciens accueillis par Lily. Hein.
Au départ, Clara Askill, d'ailleurs, c'est l'une des causes pour lesquelles sa carrière n'a pas marché
immédiatement. Elle est très indépendante.
Oui. Très, à caractère, je crois, tellement exigeante avec elle-même qu'elle devait avoir un caractère épouvantable. Et donc, au début, Lily, comme les autres, elle la trouve un peu réfrigérante. Et puis, finalement, dès qu'elle l'entend jouer, alors là, elle tombe amoureuse de ce jeu unique.
Voilà, et sur cet accord suspendu et la reprise, nous laissons à regret évidemment Clara Askill dans le 20e concerto de Mozart, dirigé par Markevitch.
Ah, oui.
Voilà, le concerto que vous trouvez le plus beau dans ces enregistrements d'Askill, non?
Non. Moi j'ai une tendresse pour le 19e.
Ah, oui.
Fa majeur. 17, 18, 19, je crois que ce sont mes préférés.
Alors Clara Askill, donc, vous l'avez dit, va être parmi ces musiciens qui, quand la guerre éclate, vont non seulement être hébergés, mais en partie sauvés par la comtesse Pastré.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Clara Askill donc vient. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de chercher pourquoi Clara Askill ne dort pas, mais je crois que c'est à cause de son caractère.
Vous dites qu'elle dort à l'hôtel ou ailleurs,
tout était plein,
etc.
Et en fait, ils l'ont mise à Cannes, donc elle est toute seule là-bas, Cannes en hors saison, dans un petit hôtel, mais tout est payé par la comtesse Lily Pastré. Mais bon, elle s'ennuie un peu et elle commence à avoir des douleurs cérébrales et on s'aperçoit qu'elle a une tumeur au cerveau. Donc Lily Pastré fait venir un très grand médecin, d'ailleurs élève de celui qui a opéré Maurice Ravel, à Marseille, qui ne demande pas d'argent, qui demande juste à ce qu'on lui rembourse son billet de train. Mais quand même, ça coûte quand même cher, parce qu'il faut réserver le bloc, plus ouais. Une chambre, etc. Et tout cela est payé avec la plus grande discrétion par Lily. Et il faut dire que quand même, à cette époque-là, les Allemands n'ont pas encore franchi la ligne de démarcation,
hein.
Mais les Juifs sont quand même sous haute surveillance, et en tout cas...
Alors comment ça se passe? Tous ces artistes, ils se donnent le mot, ils savent qu'ils peuvent aller chez la comtesse, ou c'est elle qui les invite
C'est elle qui les invite, et dès qu'ils sont inquiétés, comme Clara Askill, à un moment donné, elle est arrêtée dans une brasserie Place Castellane, ou dans un salon de thé, elle est arrêtée, et puis dès qu'elle prononce, ou la personne qui est avec elle prononce le nom de Lily Pastré, tout d'un coup, le commissaire comprend. Il appelle la comtesse, comme on l'appelait à cette époque-là. Et puis, comme elle avait ses entrées partout, et que c'était un personnage quand même considérable, très respecté, eh bien, les deux personnes...
On la relâche.
Mais bon, elle a quand même très peur et elle va partir en Suisse, mais...
Donc, beaucoup de musiciens, à côté de Clara Askill, vont donc trouver une sorte de refuge dans ce domaine Pastré. Mais elle les accueille aussi pour faire de la musique, d'une certaine façon, et pas seulement pour les accueillir, pour les sauver.
Voilà, exactement. C'est parce qu'ils sont musiciens qui sont là, mais elle les protège. Mais c'est curieux. Moi, je crois, d'ailleurs, parce qu'on se demande, mais comment a-t-elle réussi à sauver autant de Juifs, à protéger autant de monde? Je pense que pour elle, parce qu'on dit, qu'elle est courageuse, c'est pas qu'elle est courageuse, c'est que pour elle, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. C'est pas une héroïne. Et vous, c'est peut-être ça, les vraies héroïnes. Il faut peut-être cette inconscience-là, cette certitude que ça ne peut pas être autrement. Je crois que finalement, c'est ça l'étoffe des vrais héros. Alors, comme elle s'entend bien avec tout le monde, elle s'entend bien aussi avec les Allemands, la Gestapo, etc. Et comme dans ces moments-là, c'est une situation évidemment très paradoxale, tout le monde a peur de tout le monde est terrorisé. Donc on se dit, si elle accueille des Juifs et si elle est très bien avec le haut gradé, voilà, le Hauptführer, eh bien c'est donc qu'elle doit avoir le bras long. Et donc on a l'impression d'être dans To Be or Not To Be de Lubitsch, c'est-à-dire que c'est une tragicomédie, quoi.
Voilà. Et parmi ces artistes qu'elle accueille donc à Marseille dans ces années 1941, 1942, 1943 jusqu'à la fin de la guerre, figurent les musiciens classiques, les peintres, les écrivains, et aussi des musiciens populaires, puisque c'est le moment où Édith Piaf cherche à protéger son ami d'alors Glanzberg.
J'ai visité la Villa Provençale grâce à Monsieur Godin. J'ai pu voir donc la chambre d'Édith Piaf qui donne sur la mer, et il y avait un piano droit.
Et où peut-être ont vu le jour les premières notes, par exemple de Padam Padam, et composées pour elle par Norbert Glanzberg.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur.
Un des petits chefs-d'œuvre écrits par Norbert Glanzberg pour Edith Piaf. Ils étaient donc tous les deux, Olivier Bellamy, chez la comtesse Pastré pendant la guerre à Marseille, réfugiés comme beaucoup d'artistes, beaucoup de juifs en particulier. Et il faut dire d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, que la comtesse Pastré avait, on peut dire, une espèce de complice à Marseille, hein, oui. Un Américain qui oui. s'appelait Varian Fry et qui a énormément...
Varian Fry, pardon. Alors c'était un type assez extraordinaire. Qui était venu à Marseille. C'était un journaliste, hein, et il avait vu ce que faisaient lors d'un de ses déplacements en Allemagne. Il avait vu ce que faisaient les nazis aux juifs. Donc, il avait tout fait pour alerter l'opinion publique en Amérique. Et grâce à Eleanor Roosevelt, il avait réussi à partir à Marseille avec des visas, puisque Marseille,
oui, la zone libre, donc voilà. Il y a des relations
oui,
avec les États-Unis.
Marseille, c'était en plus là où c'était un petit peu un cul-de-sac, enfin c'était comme un bout du monde, quoi. Et donc c'était une possibilité de partir, de quitter cet enfer. Et donc Varian Fry, lui, il a très méthodique, hein, très protestant, comme ça, il a commencé à donner à des artistes qui étaient réfugiés là la possibilité de partir, des artistes souvent juifs. Et puis les 200 ont été vite
épuisés, hein,
voilà. Et donc il a ensuite ils ont fait grâce à des gens du milieu marseillais. C'est aussi ça.
Ah oui.
Pourquoi après? Ben oui, c'est après. Pourquoi est-ce que il y a des gens, on dit la mafia avec de fer, etc. Ben c'est parce que tous ces gens-là étaient on fabriquait des faux papiers avec les résistants, etc. Donc c'était une époque. Marseille est aussi le produit de ça. Hein.
Voilà, et d'ailleurs votre livre est aussi effectivement un hommage à Marseille. Alors on voit chez la comtesse Pastré donc des musiciens juifs comme Clara Askill, Manuel Rosenthal et beaucoup d'autres. On voit ses amis aussi Sauguet, Bérard, Boris Coquenot, etc. Darius Milhaud qui passe. Tout ce monde séjourne au moins un certain temps chez elle jusqu'à le temps de trouver une solution en quelque sorte.
Oui, oui, oui.
Et il y a une espèce de point culminant dans cette aventure qui se situe le 27 juillet 1942 avec cette production du Songe d'une nuit d'été.
Alors ça, c'est extraordinaire parce que, comme vous savez, le Songe d'une nuit d'été, cette comédie féerie de Shakespeare, il y a à la fois
de la comédie,
le texte, de la comédie,
de la féerie,
de la danse, de la musique, la partition de Mendelssohn. Ça pouvait donner du travail à tout le monde, aux musiciens qui étaient venus de l'orchestre national, l'orchestre de la radio,
qui étaient beaucoup
les juifs,
pour la plupart.
Voilà. Et donc, qui étaient réfugiés ici à Marseille, donc il fallait leur trouver du travail. Ce qui est extraordinaire, c'est que Edmond Charleroux aussi a eu un rôle. Yura Gouleur, la pianiste, a dansé. Enfin, chacun, et alors Bérard et Coquenot ont fait
les costumes,
voilà,
les décors, etc.
Les costumes, les décors, tout ça.
Et tout ça s'est passé en plein air.
Voilà, dans la campagne Pastré. Et c'est dans un très très bel endroit, près des massifs de Marseille Vert.
Avec une musique originale de Jacques Ibert,
voilà.
Une direction de Manuel Rosenthal.
Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Et c'est cet événement dont il ne reste rien, sinon la partition évidemment de Jacques Ibert, qui est absolument géniale. Ah oui, c'est très très bien. Et puis quelques photos comme ça et les souvenirs, mais il n'en reste rien puisque tout a été brûlé.
Et on va écouter justement, parce qu'il y a, vous avez cité son nom, un témoin qui a évoqué quelques années plus tard à la radio, dans une émission de Laure Adler, cette aventure, c'est Edmond Charleroux, à l'époque toute jeune journaliste à Marseille, et qui évoque cette soirée du 27 juillet 1942 et la personnalité de Lili Pastré.
Pour moi, elle a toujours été ce qu'on pouvait imaginer de plus fidèle à l'idée qu'on se fait d'une héroïne de Tchekhov. Montredon, c'était la cerisée. On savait que ça ne pourrait pas vivre éternellement, cette propriété immense, ces hectares et ces états montant jusqu'au-dessus de Marseille Vert, s'étendant sur toute la Pointe Rouge, cette immense pinède dans laquelle il y avait trois châteaux à différentes familles, à une espèce de compound, et le mas ancien à un seul étage où habitait Lili Pastré. Donc, c'est ce paradis terrestre qu'il faut garder en mémoire et c'est là que tout pouvait se passer, y compris, et peut-être ceci dépendant de cela, en pleine occupation allemande. Le Songe d'une nuit d'été, joué un soir de pleine lune et dont tous les artistes, grands artistes, étaient de passage à Marseille pour aller ailleurs et tous français et tous Juif.
Thank you.
un extrait de la suite Elisabethaine du grand Jacques Ibert, compositeur que j'adore, cher Olivier Bellamy, oui. Quel grand musicien. Et donc, musique composée pour Le songe d'une nuit d'été chez la comtesse Pastré en 1942 à Marseille. Vous profitez d'ailleurs de ce livre pour évoquer quelques-uns des personnages justement qui se sont succédés là et qu'on connaît pas forcément très bien. Moi, par exemple, j'ai un peu découvert, vu ma grande ignorance en matière de piano, Yura Güler.
Alors moi, c'est Martha Argerich qui me l'a découvrir. Oui. Je la connaissais très très peu, mais elle l'a beaucoup aidée à un certain moment. C'est un personnage extraordinaire. Savez-vous que elle a passé son prix de conservatoire de piano en même temps que Clara Askill. Elle a eu le premier prix, alors que Clara Askill
n'a eu que le second.
Elle n'a eu que le second.
Et c'était une grande habituée de chez Pastré. Hein.
Ah oui. Puis elle a épousé le créateur de la collection la Pléiade.
C'est ça, vous l'avez aussi.
Bon, et puis à un moment donné, elle a fait de la danse parce qu'elle a pris des cours avec la Argentina, donc elle a appris la danse. Je crois même qu'elle a croisé Nijinsky. Enfin bref.
C'est comme ça qu'elle se retrouve à danser dans Le songe d'une nuit d'été.
Exactement.
Chez la comtesse Pastré.
Voilà, c'est ça.
Vous expliquez aussi que ce songe d'une nuit d'été, où Edmond Charleroux se trouve, elle nous l'a expliqué, c'est presque le point de départ du festival d'Aix-en-Provence.
C'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ. S'il n'y avait pas eu le songe d'une nuit d'été, et c'est une intuition géniale, parce que c'est une nuit de pleine lune, comme il n'y avait pas d'électricité, c'était parfait pour pouvoir éclairer ce vallon. Comme ça, était un peu ombragé, avec les restrictions, c'était pas pendant la guerre. Ce songe d'unité, c'était parfait pour faire travailler tout le monde et pour donner l'espoir, quand même.
Voilà, et pour rassembler aussi des grands décorateurs, des musiciens, etc.
Mais je crois aussi pour dire, tenez bon, tenez courage, parce que Puck s'exprime à la fin au spectateur, et c'est extraordinaire. Enfin, on a l'impression que Shakespeare a écrit cette pièce pour Montredon et pour Lily Pastré, puisqu'il dit quelque chose comme nous sommes sous le parrainage de notre bienfaitrice, etc. Et ça va nous donner du courage. Enfin, c'est extraordinaire. Je suis sûr que ceux qui ont vu, je sais pas, il devait être une centaine, ont dû avoir les larmes aux yeux parce que tout d'un coup, c'était un miracle.
Et c'est à la suite de ça, donc, que Gabriel Dussurgé, avec la comtesse Pastré, va se mettre en quête d'un lieu.
C'est pas avec la comtesse Pastré, c'est Lily Pastré qui fait venir Gabriel Dussurgé, parce qu'on lui a dit oui, il est très bien, et il aime beaucoup l'opéra, il voyage, et elle a l'idée de monter un festival. Voilà. Elle pense que ça ne marchera pas à Marseille. Lui, vous voulez Marseille, parce que vibrionnant, etc. Il trouvait que Marseille, ce serait très bien, mais elle pense que ça ne collera pas. Et donc, elle dit, ce sera plutôt Aix. Donc, elle prend sa voiture. Elle avait toujours des voitures de toutes les couleurs, des robes roses. D'ailleurs, c'est un personnage.
Elle était devenue très grosse.
Elle était devenue grosse. Ouais. Dussurgé, qui avait beaucoup d'esprit, qui n'avait pas la langue dans sa poche, disait toujours, elle avait l'air de la veille. Gérard Mannoni m'a dit, elle avait l'air de sortir d'une poubelle. Elle était maquillée. La moitié des cheveux en brun, la moitié en roux, une sorte de maquillage qui débordé sur les narines. Enfin, c'était un personnage. Mais comme, finalement, ça n'étonne que ceux qui ne connaissent pas les vrais aristocrates. Il n'y a que dans les films où ils s'expriment comme ça, toujours, comme Georges Descrières, etc. Mais sinon, ils parlent comme des paysans.
Et donc, c'est Lily Pastré qui a l'idée du lieu même du théâtre de l'archevêché.
C'est ça. Hein,
pour les concerts
d'Aix-en-Provence. Ce sera ici.
Et c'est comme ça que tout commence.
Elle n'a pas de réplique. Évidemment, elle paye tout pour la première année. On fait venir, il y a Pierre Barbizet, le quatuor italiano, Clara Askill qui revient. Et c'est Così fan tutte parce que Gabriel Dussurgé. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un très bon choix. Parce que c'est pas un opéra très connu de Mozart à cette époque-là. Et donc, il commence avec Così, mais c'est assez facile à monter. Et tout de suite, il le monte en italien. Alors que à cette époque-là, tout était chanté en français.
Bien sûr. On va écouter encore alors un des protégés de Lily Pastré, c'est mon cher Manuel Rosenthal qui séjourne chez elle, qui dirige Le songe d'une nuit d'été et qui compose à la même époque où on mangeait pas toujours très bien pendant la guerre, justement une série de musiques de table
qu'il mourait de faim. Justement.
Parce qu'il mourait de faim. Et parmi les mouvements, j'ai choisi celui-ci qui s'intitule Cuisseau de chevreuil. Un extrait de la musique de table composée par Manuel Rosenthal en 1941. C'était les cuisseaux de chevreuil pour nous mettre en appétit avec Olivier Bellamy qui évoque son nouveau livre La folie pastrée sur la comtesse pastrée à Marseille pendant la guerre. Et juste après la guerre, on l'a dit donc à Aix-en-Provence où elle va être associée et même à l'origine de la création du festival. Et puis finalement, ça va pas durer très longtemps parce que c'était peut-être justement devenu une chose trop importante par rapport à son côté bohème, si j'ose dire. Olivier Bellamy.
Elle vivrait aujourd'hui, Lili Pastré, elle ne reconnaîtrait pas son enfant maintenant avec ses grands orchestres, tout est devenu très professionnel. Voilà. À cette époque-là, ça avait un côté encore théâtre. C'était fait avec une minutie, c'était des petits joyaux, mais ça n'avait pas l'air professionnel.
Et donc Charles Roux dit que finalement, elle a pris ses distances et que peut-être même Dussurgé n'a pas été tout à fait là pour la mettre suffisamment à l'honneur et que finalement, l'histoire s'est arrêtée ainsi.
Ni Edmond Charles Roux, d'ailleurs, qui le reconnaît elle-même, qu'elle était tout à sa carrière, et puis Dussurgé, on ne peut pas lui jeter la pierre parce qu'il avait envie d'en faire sa chose et il sentait bien que elle, Lili Pastré, comme elle avait payé, comme c'était la fondatrice, comme elle en avait eu l'idée, elle était gênante. Lui, il avait son idée du festival, mais elle a absolument rien demandé, elle a jamais rien exigé. Elle est simplement repartie dans son Montredon. Elle invitait de temps en temps les vedettes, ceux qu'elle connaissait qui venaient la voir. Et puis, à un moment donné, elle arrivait aux premières, généralement en retard, généralement toujours décoiffée, avec une sorte de tissu acheté sur le cours Mirabeau, avec trois trous. Ça, c'est Evre qui m'a raconté ça. Elle prenait un bout de tissu, elle faisait trois trous, puis elle enfilait ça. Comme ça, elle avait une sorte de corps d'hippopotame, une espèce de sorte de grand sari, comme ça.
Elle est morte en 1974, la comtesse Pastré. Qu'est-ce qui est devenu ce domaine, cette campagne Pastré, donc, aujourd'hui?
Il a été acquis, et ça par... Alors, je
la
pense que
Marseille.
C'est... Voilà, je pense que Edmond Charles Roux a voulu... Et je pense que aussi les enfants, Pierre Pastré, qui était le fils, quand Edmond Charles Roux parle de la cerisée, lui, c'était un véritable personnage de Tchekhov, justement, avec cette sorte de mélancolie, mais cette grande rigueur. Parce qu'évidemment, vous imaginez cet immense domaine, toutes les entreprises, toutes les sociétés.
L'immobilier,
évidemment. Et lui a insisté pour que ce soit la ville qui l'achète pour une bouchée de pain, vraiment.
Donc on peut s'y promener aujourd'hui.
Complètement.
Voilà. Ouais. À l'exception de la maison elle-même.
Ça reste pour les invités du maire. Moi, je trouve qu'on devrait en faire quelque chose, quand même. Un lieu musical. C'est dommage que ce lieu où tant de musiciens se sont croisés ne soit pas dédié aux artistes et à la musique. Ça ferait tellement plaisir à Lili Pastré.
Voilà. Et puis tout près de là, Olivier Bellamy, il y a aussi votre future maison.
Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand.
Cela n'est pas un défaut car il faut ce qu'il faut.
Pour mon compte, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre qu'il fait bon quand la blague à son toit accroche. Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur sur une table c'est tout, oui, mais sur cette table il y faudra surtout un aïoli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon je te dis là dans ma caboche, le bonheur fait mon bon, c'est un tout petit cabanon.
C'est bien beau ton cabanon, m'a soufflé Cupidon, mais il sera plus joyeux lorsque vous serez deux.
Cela est mon vif désir si vous voulez venir, il deviendra un château si nous y chantons un duo. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre il fera bon si l'amour sur son toit accroche. Son pavillon léger où l'on voit deux cœurs enlacés. À l'intérieur une chambre et c'est tout. Dans cette chambre là il faut un lit surtout. Et dans ce lit un oreiller moelleux. Et sur l'oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur c'est mon bon, c'est un tout petit cabanon.
Alors, il est prêt, votre cabanon, Olivier Bellamy?
Il m'attend.
Il vous attend. Voilà, c'est le merveilleuse opérette marseillaise chantée par Darcelis. Mais non, il faut dire qu'après vos aventures que vous nous avez racontées, vous avez décidé finalement donc, de retourner vivre à Marseille.
Je n'ai rien décidé. La vie a décidé pour moi. Et comme j'en avais marre un peu de cet appartement.
La capitale.
Non, puis je pense que c'est pas que j'en ai marre de Paris. J'adore Paris. J'aimerais toujours Paris. Mais comme j'avais acheté un petit pied-à-terre à Marseille pour faire plaisir à ma mère qui voulait pas que je dépense mon argent bêtement, il se trouve que maintenant, comme les loyers à Paris sont devenus exorbitants, il se trouve que là, j'ai un petit cabanon, un petit coin près de la Bonne Mère.
Près de la Bonne Mère, et ça vous permettra d'aller au théâtre de l'Odéon, qui
absolument.
Est un des derniers théâtres d'opérette en France, à Marseille, il faut le dire.
J'ai appris ça grâce à vous,
ouais.
et je trouve que l'Opéra de Marseille, d'ailleurs, Maurice
Très bonne maison.
Très bonne
grand directeur.
Et ouais, et vraiment, il y a des mises en scène, très, très bons chanteurs. Et moi qui allais toujours un peu en grognant, franchement, à l'Opéra de Paris, il faut prendre le métro. Là, je descendrai tranquillement.
Et vous retrouverez l'accent.
Voilà, je retrouverai l'accent. Je descendrai de mon nid d'aigle et j'irai dans ce bâtiment qui est une merveille en plus, l'Opéra de Marseille.
C'est vrai.
Où tout le monde est charmant avec l'accent qui chante. Déjà, l'accent chante et à l'intérieur, ça chante aussi.
Mais vous reviendrez quand même à Paris pour la sortie de votre dictionnaire. Amoureux de Chopin, par exemple.
Oui,
on l'espère dans quelques mois.
C'est vrai. Chopin qui a dormi à l'hôtel Beauvau
à Marseille.
À Marseille, retour de Majorque. Oui, je suis en plein dans les corrections, là.
Eh bien, merci, Olivier Bellamy, d'être venu nous parler si bien
Benoît.
De Marseille et de la Comtesse Pastrée. On va se quitter avec la suite provençale de Millau.
Bonne
idée.
Je crois
que ça a sa place dans le programme.
Bonne idée. Ouais, très bonne idée.
Et puis, on vous attend dès que vous remontez à la capitale. L'ouverture de la suite provençale de Darius Milhaud, dirigée par le compositeur. Ainsi s'achève mon entretien avec Olivier Bellamy que je recevais pour la parution de son livre La Folie Pastrée aux éditions Grasset. Un livre qui figure d'ailleurs parmi les conseils de lecture pour l'été des académiciens Goncourt. Rien que ça, voilà. Donc un livre que je vous recommande beaucoup. Et puis vous pourrez aussi retrouver ce week-end Olivier Bellamy à l'excellent Festival des écrivains du Sud qui se tient à Aix-en-Provence. Il sera notamment demain à 11h à la bibliothèque Méjeanne.
Étonnez-moi, Benoît.
Benoît Dutertre, France Musique.
Et avant de retrouver Serge Laïc, je rouvre ce débat qui dure depuis la semaine dernière. Les Lavandières du Portugal sont-elles ou pas une chanson féministe avant l'heure? Je vous laisse juger.
Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal? Surtout celles de la rivière, de la ville de Setúbal. Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elles lavent, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, tape, tape sur ton battoir. Tape, tape, tu dormiras mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un va-nu-pied, ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Le soir venu, les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, telles des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur refrain et leur pas feutré. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, sur ton battoir et tape, tape, tu dormiras mieux ce soir. Tape, tape, tape sur ton battoir, tape, tape, tu dormiras mieux ce soir.
Voilà, j'attends vos commentaires par courriel. Quant à moi, de toute façon, c'est toujours un plaisir de réécouter cette chanson, rien que pour les arrangements de Michel Legrand, et ce n'est pas Serge Laïc qui me dira le contraire. Serge, en chair et en os devant moi pour la première fois depuis de très longs mois.
En direct, ah oui.
Voilà, merci d'être ici Serge et vous nous présentez un petit programme léger et instrumental pour l'été.
Et oui, parce que les vacances approchent. Et alors, si cette année les voyages en Europe ou intercontinentaux ne sont pas vraiment de mise, cher Benoît, eh bien, rien n'empêche de se balader en musique et de ce pas, nous traversons le Rhin pour rencontrer le très brillant trompettiste allemand Walter Scholz et l'orchestre à cordes Dansgeorgart. Ils interprètent « Loin du bal », une œuvre du français Ernest Gillet.
le trompettiste Walter Scholz et les cordes de Hans-Georg Arlt dans cette pièce Loin du bal d'Ernest Gillet en 1977. Serge Laïc.
Alors Benoît, d'un coup d'aile, nous voici en Amérique du Sud pour écouter le célébrissime Brésil, composé en 1939 par Harry Barroso, un musicien du CRU. C'est l'orchestre américain de Morton Gould qui dirige cette étincelante version. Morton Gould, connu aussi pour avoir écrit les musiques de la série télévisée Holocaust.
Trésor de musique légère, instrumentale et orchestrale choisi par Serge Laïc pour la plupart des morceaux inédits en CD, hein, comme ce Brésil qu'on vient d'entendre par l'orchestre de Morton Gould en 1964.
Alors Benoît, nous restons dans la couleur brésilienne avec Jazz Samba, une musique composée par le guitariste Charlie Bird et jouée par l'orchestre du violoniste virtuose Herman Klebanov. Les cordes sont mêlées au saxophone alto dans un style très élégant.
Thank you.
Jazz Samba par l'orchestre Herman Klebanov en 1963. Et j'ai le vinyle sous la main avec toute sa superbe pochette, un disque Mercury, puisque Serge vient souvent avec ses disques. Vous en avez combien de disques vinyles chez vous, Serge Elaïc?
J'ai honte de vous le dire. Peut-être 30 000 en tout.
30 000. Ça prend combien de place dans votre maison?
Partout.
Partout. Il paraît que vous avez pu les ranger pendant le confinement.
Mais hein, c'est voilà. Vrai parce qu'ils étaient souvent en désordre.
Voilà, alors merci en tout cas de nous les ressortir, ces disques précieux. Et pour la plupart, je le redis, jamais réédités en compact.
Alors, Benoît, nous partons de Rio de Janeiro. Donc, on arrive à Londres, évidemment très simple en musique. Et nous profiterons ainsi d'une très jolie version de That's Plenty, un ragtime créé en 1914. Et interprété ici par le groupe instrumental des banjoistes de Buckingham, donc là où se trouvent les fameux gardes royaux du palais. Avec banjo bien sûr, mais aussi mandoline, clarinette, xylophone et autres percussions.
Buckingham Banjos par Harry Robinson dans ce morceau intitulé That's Plenty en 1966.
Voilà, et bien cher Benoît, comme depuis quelques années, j'ai choisi de clôturer la dernière chronique de la saison avec Holiday for Strings, vacances pour les cordes. Et figurez-vous que j'ai découvert il y a quelques semaines une superbe interprétation de cette musique par un pianiste américain que vous appréciez tout particulièrement.
J'adore, vous voulez.
Que vous adorez, je sais. Il est certain que les cordes ne sont pas du tout au rendez-vous dans cette version, mais qu'importe, écoutons Errol Garner.
Thank you.
Vacances pour les cordes, le tube de David Rose par Errol Garner au piano en 1953. Ainsi se referme la chronique de Serge Elhaïc, à qui je souhaite d'excellentes vacances.
Et bien moi aussi Benoît, bon été à vous, bon été à toute l'équipe de Tenez-moi Benoît et bien sûr à tous les auditeurs.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Stéphane Poitvin, Emmanuel Rose et Xavier Atto, réalisation Christine Amado. Et samedi prochain pour la dernière de la saison, j'aurai la joie d'accueillir ensemble Jean-Jacques Debout et Chantal Goya. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.